Le livre de Joël et l'église adventiste du septième jour, Laodicéenne. Numéro 12.
Numéro 12.
Mon désir est de présenter le témoignage prophétique de Joël, de telle sorte que ce témoignage puisse être reconnu dans ce que Pierre disait et faisait à la Pentecôte. Je suis certain que la Bible est claire quant à ce que Pierre faisait et disait à la Pentecôte, mais je cherche à comprendre ce que Pierre préfigurait prophétiquement dans l'histoire de la pluie de l'arrière-saison, lorsqu'il a présenté le message de la Pentecôte comme un accomplissement du livre de Joël. Pierre est un symbole du reste du peuple de Dieu. Et il est illustré non seulement à la Pentecôte, mais aussi à Césarée de Philippe, dans Matthieu 16. Césarée de Philippe se trouve dans les versets 13 à 15 de Daniel 11, trois versets qui présentent une bataille qui s'est d'abord accomplie durant la période historique où Césarée de Philippe s'appelait Panium. Les versets 13 à 15 précèdent le verset 16, lequel identifie la loi du dimanche aux États-Unis. Le verset 10 identifie l'effondrement de l'Union soviétique en 1989. Les versets 10 à 16 de Daniel 11 représentent la période allant de 1989 jusqu'à la loi du dimanche, et cette période est l'histoire cachée du verset 40 du même chapitre.
L'histoire cachée en caractère gras.
1798.
Et au temps de la fin, le roi du Sud se dressera contre lui.
1989.
Mais ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude de grandes forces. Et le roi du Nord viendra contre lui comme un tourbillon, avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il pénétrera dans les contrées, déferlera et passera. Et l'un viendra certainement, déferlera et traversera. Puis il reviendra et s'irritera jusqu'à sa forteresse.
Tout Millecoix de Sangre avait en vue spéciale la bataille de Raphia.
Et le roi du Sud, irrité, sortira et combattra contre lui, contre le roi du Nord. Et celui-ci mettra sur pied une grande multitude, mais la multitude sera livrée entre ses mains. Et quand la multitude aura été enlevée, son cœur s'élèvera, il fera tomber des dizaines de milliers, mais il n'en sera pas fortifié.
La bataille de Panion, Césarée de Philippe.
Car le roi du Nord reviendra, mettra sur pied une multitude plus grande que la précédente, et viendra assurément, après un certain nombre d'années, avec une grande armée et de grandes richesses.
Et dans ces temps-là, beaucoup se lèveront contre le roi du Sud. Les brigands de ton peuple s'élèveront aussi pour établir la vision, mais ils tomberont.
Alors le roi du Nord viendra, élèvera un remblai et s'emparera des villes les mieux fortifiées. Et les forces du Sud ne tiendront pas, ni ses troupes d'élite, et il n'y aura aucune force pour résister.
La loi dominicale aux États-Unis.
Mais celui qui marchera contre lui fera selon sa volonté, et nul ne se tiendra devant lui. Et il se tiendra dans le pays glorieux qui sera consumé par sa main. Il entrera aussi dans le pays glorieux et beaucoup de pays seront renversés. Mais ceux-ci échapperont à sa main, à savoir Édom, Moab et le chef des fils d'Amor. Il étendra aussi sa main sur les pays et le pays d'Égypte n'échappa pas sa main. Daniel 11, 40, 10, 16, 41, 42.
Quand Pierre est prophétiquement à Césarée de Philippe, Panium, et que la Pentecôte est le temps de la pluie tardive, cela le situe dans l'histoire cachée du verset 40. J'ai l'intention d'aborder la guerre ukrainienne actuelle représentée au verset 11 du chapitre 11, ainsi que la guerre à venir de Panium au verset 13 à 15 qui conduit à la Troisième Guerre mondiale, lesquels sont des événements externes entre 1989 et la loi du dimanche. Mais nous identifions actuellement l'histoire du troisième ange depuis le 22 octobre 1844 jusqu'à la formation d'une église légale en 1863. La ligne illustre la venue du troisième ange le 11 septembre 1844 jusqu'à la loi du dimanche 1863. La loi du dimanche fut préfigurée par la proclamation d'émancipation annonçant la liberté, préfigurant ainsi la loi du dimanche où la liberté est supprimée. La liberté proclamée par le premier président républicain préfigure la liberté retirée par le dernier président républicain, qui est prophétiquement destiné à devenir un dictateur lors de la loi du dimanche.
Lorsque notre nation abjurera à ce point les principes de son gouvernement qu'elle adoptera une loi du dimanche, le protestantisme, par cet acte, s'alliera au papisme. Ce ne sera rien d'autre que redonner vie à la tyrannie qui, depuis longtemps, guette avidement l'occasion de replonger dans un despotisme actif. Testimony, volume 5, 711.
721 avec Jésus-San constitua l'histoire alpha qui inaugura les prophéties de temps d'Ésaïe 7-8. Lesquels atteignirent l'accomplissement Oméga en 1863. En 742, Achaz, roi du royaume du sud de Juda, entrait dans une guerre civile contre les dix tribus du nord qui formait le royaume du Nord. L'histoire de 742 avec Jizusan était illustrée en Juda, la terre glorieuse littérale des Écritures, peuplée de juifs littéraux et représentée dans le passage par le roi méchant et insensé Akaz, typifiant ainsi l'histoire Oméga de 1863. L'histoire Oméga de 1863 s'accomplit durant la période où les États-Unis règnent comme la bête de la terre, le sixième royaume de la prophétie biblique. Les États-Unis sont la terre glorieuse spirituelle, composée de la chrétienté protestante qui est bibliquement constituée de juifs spirituels. La guerre civile entre le Nord et le Sud en 742 avec Jizusan, dans l'histoire Alpha, illustrait la guerre civile entre le Nord et le Sud dans l'histoire Oméga de 1863. Ensemble, ces deux témoins illustrent l'histoire externe menant à la loi du dimanche, où la terre glorieuse spirituelle sera de nouveau divisée en deux classes. En 764 avant Phigéel, la puissance du Nord représenta une alliance entre les dix tribus du Nord d'Israël et la Syrie, typifiant ainsi une alliance avec une puissance extérieure, comme cela s'est accompli lorsque le soutien de la papauté favorable à l'esclavage fut accordé aux États du Sud favorables à l'esclavage pendant la guerre de sécession. L'allié extérieur de la Syrie en 704 vêtu Navan of Stone et l'allié extérieur de la papauté pendant la guerre de sécession identifient l'alliance des globalistes mondiaux avec les démocrates globalistes dans leur guerre contre le magaïsme. Une guerre qui a commencé en 2015 lorsque le quatrième et le plus riche président s'est levé et, ce faisant, a agité tout le royaume de Grécia selon Daniel 11, verset 2. Cette agitation identifie l'éveil des païens dans le livre de Joël. Grécia et Hayden sont des symboles de la puissance du dragon qui conduit le monde à Armageddon, en alliance avec la bête et le faux prophète. En Shalong et Fims, les païens furent réveillés à l'appel prophétique vers la vallée de Josaphat selon Joël, qu'il appelait aussi la vallée du jugement. En 2015, Donald Trump annonça sa candidature à la présidence, attisant ainsi l'empire mondialiste représenté comme la Grèce, et les païens entamèrent leur marche vers l'Armageddon, et ce seulement un an après le début de la guerre d'Ukraine, en accomplissement du verset 11 de Daniel 11. Les guerres civiles de 745 avant J6 et de 1863 mettent en évidence l'histoire de la loi du dimanche, qui marque la fin du sixième royaume de la prophétie biblique. Ce sixième royaume a commencé avec la guerre d'indépendance, si bien que sa fin, au moment de la loi du dimanche, indique la répétition de la guerre d'indépendance, au même moment où la guerre civile se déroule. La définition et la qualification d'une guerre, civile ou révolutionnaire, dépendent du point de vue. Ce que les démocrates font actuellement au moyen d'une guerre juridique, du détournement de fonds, de la fraude, de l'immigration illégale et de la propagande, ils l'appellent une révolution de couleur. Mais ceux qui s'opposent à leur manœuvre, mondialistes, considèrent exactement ces mêmes activités comme l'instigation de troubles civils. Antifa est-il un criminel ou un héros ? Les deux guerres historiques représentent une seule guerre clivante qui a lieu sous le dernier président républicain. Comme pour le premier président républicain, la guerre sera remportée par le dernier président républicain qui était aussi préfiguré par le premier président, lequel fut également le vainqueur de la guerre révolutionnaire. La révolution MAGA, selon les démocrates, produit les troubles civils actuels. Selon votre persuasion politique personnelle, la guerre actuelle est soit une guerre révolutionnaire, soit une guerre civile. Prophétiquement, elle est les deux.
1863 représente la loi du dimanche, et il en va de même pour 1844, lorsque le troisième ange est arrivé avec le message de la loi du dimanche. La période de 1844 à 1863 porte une empreinte de la loi du dimanche du début à la fin. En 1846, le mariage des White, l'observance du sabbat et le changement de nom de Harmon à White ont indiqué que le mariage contracté le 22 octobre 1844 avait été consommé. Et cette consommation a marqué le début du processus d'épreuve du troisième ange, tout comme l'épreuve sabbatique triple de la manne a marqué le début de 10 épreuves faisant suite au baptême de la mer Rouge. La manne fut la première épreuve et représentait la 10e épreuve à Kadès, car toutes deux représentent le message du troisième ange, et donc la loi du dimanche.
Chaque semaine, durant leur long séjour dans le désert, les Israélites étaient témoins d'un triple miracle, destiné à graver dans leur esprit le caractère sacré du sabbat. Une double quantité de manne tombait le sixième jour, il n'en tombait pas le septième, et la portion nécessaire pour le sabbat se conservait fraîche et pure, alors que, si l'on en gardait à tout autre moment, elle devenait impropre à la consommation. Patriarche et prophète, 296.
Le premier des 10 tests a été l'épreuve de la manne, représentant le triple message des 3 anges d'Apocalypse 14. Comme pour la manne, les anges représentent le triple avertissement contre l'adoration le premier jour de la semaine. Le triple miracle de la manne était
destinée à graver dans leur esprit le caractère sacré du sabbat, ce qui est bien sûr le dessein du troisième ange. Le premier des trois miracles représentés par la manne impliquait de manger le pain céleste, et manger est un symbole alpha de la période de la pluie de l'arrière-saison. Le deuxième miracle représente le message du deuxième ange, ou l'inspiration double des mots et des expressions pour marquer la période représentée par les deux chutes de Babylone, car Babylone est tombée et tombée. Le deuxième miracle était le doublement de la quantité de manne le sixième jour. Le troisième miracle était la conservation du pain du sabbat du septième jour. En tant que figure des trois anges, la manne est le premier ange et doit donc contenir toute l'histoire, laquelle, dans l'Apocalypse, chapitre 14, est celle des trois anges. Le premier ange est une fractale de l'ensemble des messages des trois anges. Une fractale est une forme géométrique complexe qui peut être divisée en parties, chacune étant une copie réduite du tout. Cette propriété s'appelle l'autosimilarité. Les fractales présentent souvent des détails très fins, quel que soit le degré de grossissement. On rencontre des fractales en mathématiques, en biologie, en physique, en géologie, en chimie, en astronomie, en ingénierie et dans bien d'autres domaines du savoir. La structure en trois étapes des trois anges dans l'Apocalypse, chapitre 14, est représentée dans le message du premier ange, faisant ainsi du premier ange une fractale des trois anges. Les trois premiers chapitres du livre de Daniel représentent respectivement les messages du premier, du deuxième et du troisième ange. Et le chapitre 1 de Daniel contient la même structure en trois étapes que celle représentée dans les trois chapitres, comme chez les trois anges par rapport au premier ange. Le triple miracle de la manne était qu'elle devait être mangée. Et le chapitre 1 de Daniel parle de nourriture. Daniel a réussi l'épreuve alimentaire en choisissant des légumes plutôt que le régime de Babylone. Il fut ensuite éprouvé quant à son apparence, et son apparence fit apparaître une séparation entre sa mine et celle de ceux qui mangeaient la nourriture de Babylone. Le message du deuxième ange est l'appel à se séparer de Babylone durant une histoire de séparation où deux classes se développent puis se manifestent. Cette deuxième épreuve pour Daniel conduisit à la troisième épreuve de Nabuchodonosor, qui était la troisième épreuve du chapitre 1 et préfigurait l'épreuve de l'image d'or du chapitre 3, que Sir White identifie à plusieurs reprises comme la loi du dimanche, qui est le message du troisième ange. Le chapitre 1 de Daniel est une fractale des trois premiers chapitres de Daniel, et ces trois chapitres représentent les trois anges d'Apocalypse 14, dont le premier ange et le chapitre 1 de Daniel sont tous deux des fractales des trois anges et des trois chapitres.
Chaque semaine, au cours de leur long séjour dans le désert, les Israélites furent témoins d'un triple miracle, destiné à graver dans leur esprit la sainteté du sabbat. Une double quantité de manne tombait le sixième jour, il n'en tombait aucune le septième, et la portion nécessaire pour le sabbat se conservait saine et pure, alors que si l'on en gardait à un autre moment, elle devenait impropre à la consommation. Dans les circonstances entourant le don de la manne, nous avons la preuve concluante que le sabbat n'a pas été institué, comme beaucoup le prétendent, lorsque la loi fut donnée au Sinaï. Avant que les Israélites n'arrivent au Sinaï, ils comprenaient que le sabbat leur était obligatoire. Le fait d'être tenu de ramasser chaque vendredi une double portion de manne en vue du sabbat, jour où ils n'en tombaient pas, leur rappelait sans cesse le caractère sacré de ce jour de repos. Et lorsque quelques personnes du peuple sortirent le jour du sabbat pour ramasser de la manne, le Seigneur demanda « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ?» Patriarches et Prophètes, 296.
Ramasser et manger la manne préfigure Jean au chapitre 10 de l'Apocalypse, qui prend le petit livre de la main de l'ange, puis le mange.
Et j'allai vers l'ange et je lui dis « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit, « Prends-le et mange-le entièrement. Il rendra ton ventre amer, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. » Apocalypse 10, 9.
Jean devait d'abord aller vers l'ange et lui demander, puis il devait prendre le petit livre et ensuite il devait le manger. Jean représente les trois étapes du premier ange, aller vers l'ange et lui demander, ensuite prendre, enfin manger. Ramasser et ou manger constitue la première des trois épreuves de la manne, mais elle contient une fractale des trois épreuves de la manne. Ramasser et manger la manne typifie Jérémie.
Tes paroles ont été trouvées, et je les ai dévorées. Et ta parole a été pour moi la joie et l'allégresse de mon cœur, car je suis appelé par ton nom, ô Seigneur, Dieu des armées. Jérémie 15 et 14.
Ces paroles furent trouvées par Jérémie, qui chercha puis demanda le petit livre. Sa parole fut trouvée lorsque la manne fut ramassée. Ramasser et manger la manne préfigure Ézéchiel, qui mangea le livre qui lui fut donné et, ce faisant, montre que refuser de manger le livre, c'était être comme la maison rebelle.
Mais toi, fils de l'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Et lorsque je regardais, voici, une main fut envoyée vers moi. Et, voici, un rouleau de livres s'y trouvait. Et il le déploya devant moi. Il était écrit au-dedans et au-dehors. Et il y était écrit des lamentations, du deuil et du malheur. Il me dit encore, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. »
Alors j'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau.
Et il me dit, « Fils de l'homme, que ton ventre mange et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Alors je le mangeai, et il fut dans ma bouche comme du miel pour la douceur. Ézéchiel 2:8-3:3.
Si Ézéchiel refusait de manger le petit livre, il se trouverait dans la maison rebelle et le rouleau du livre qu'il devait manger était décrit comme lamentation, deuil et malheur, représentant un triple message dans les derniers jours. Le triple message des derniers jours, ce sont les messages des trois anges d'Apocalypse 14. Et le contexte dans lequel Ézéchiel présente ces trois messages, c'est celui de l'islam et du troisième malheur. Ces trois messages possèdent un alpha et un oméga, et le troisième est le malheur, symbole principal de l'islam. Donc, l'alpha doit s'accorder avec l'oméga. Par conséquent, les lamentations représentent les lamentations qui ont commencé le 11 septembre avec l'arrivée de la septième trompette et du troisième malheur, qui devait s'intensifier progressivement jusqu'aux sept dernières plaies. Lors du tremblement de terre, de la loi du dimanche, d'Apocalypse 11, le troisième malheur vient rapidement. Et l'inspiration nous informe que le décret injuste d'Ésaïe 10 est cette loi du dimanche. Le verset commence en déclarant « Malheur à ceux qui édictent des décrets injustes ». Manger la manne était la première de trois épreuves. La seconde était le doublement, le jour de préparation. Et pourquoi se préparait-il ? Il se préparait à l'épreuve du sabbat, qui est le message du troisième ange. Ce triple miracle fut aussi le premier, ou test alpha, d'une série de 10 épreuves. Dieu donna de la manne à la première étape, puis il donna une portion double à la deuxième, mais aucune à la troisième. La troisième épreuve est différente des deux premières, car elle est l'épreuve décisive. Ces trois épreuves représentent l'alpha d'un processus d'épreuves en 10 étapes qui mènent au premier Kadesh. Si vous consultez les divers théologiens, vous trouverez de nombreuses listes des 10 épreuves qui s'achèvent au premier Kadesh. Presque toutes incluent la mer Rouge comme l'une des 10 épreuves. Certaines incluent des jalons historiques antérieurs à la mer Rouge pendant les plaies. Elles sont toutes erronées. La première épreuve est la manne. Paul identifie la traversée de la mer Rouge comme un baptême.
De plus, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que tous nos pères ont été sous la nuée, et qu'ils ont tous traversé la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens 10:1-2.
Moïse préfigure Jésus. Et le baptême de Jésus identifie un processus d'épreuve, de nature triple, commençant par et mettant l'accent sur l'épreuve de l'appétit. La croix était préfigurée par la Pâque, en Égypte. Quand ils sont sortis de l'autre côté de la mer Rouge, le Christ a été ressuscité en tant qu'offrande des prémices. Lorsqu'il est sorti de la sépulture d'eau des mains de Jean-Baptiste, le Christ, l'offrande des prémices, a entamé un processus d'épreuve de 40 jours. Après qu'il a été ressuscité, comme le préfigurait son baptême, il y a eu 40 jours durant lesquels le Christ s'est entretenu face à face avec les disciples. Le processus d'épreuve commence après la traversée de la mer Rouge, aussi certainement que le Christ a été conduit par l'Esprit dans le désert dès qu'il est sorti de l'eau. La première épreuve pour le Christ fut celle de l'appétit, car le pain du ciel entreprit son ministère, loin, précisément là où Adam était tombé. La première épreuve après la mer Rouge est la triple épreuve de la manne, qui préfigure la triple épreuve subie par le pain du ciel. Les épreuves du Christ commencèrent après qu'il fut sorti de l'eau. Les 10 épreuves doivent donc également commencer après qu'ils furent sortis de l'eau. Le Christ fut alors confronté à une triple épreuve, inscrite dans le cadre de l'appétit, comme le typifie la triple épreuve de la manne qui commença après que l'Esprit eut fait sortir l'Israël ancien d'Égypte et l'eut conduit dans le désert. Les autres listes qui émettent des conjectures sur les rébellions que représentent les 10 épreuves qui culminent à Kadesh identifient la rébellion du veau d'or conduite par Aaron comme l'une de ces 10 épreuves. Mais elles ont tort. La provocation du veau d'or représente deux épreuves. C'est un élément essentiel de la symbolique du veau d'or. L'idolâtrie qui s'est manifestée lorsque le peuple pensait que Dieu ne verrait pas a été suivie par le retour de Moïse. Puis le peuple a choisi de rester dans l'idolâtrie sous les yeux de Dieu, représenté par Moïse. Dans la rébellion double et croissante, nous voyons une division prophétique au sein des tribus lorsque la tribu de Lévi devint exclusivement chargée du service du sanctuaire. Car jusqu'à cette rébellion, le service du sanctuaire devait être accompli par les premiers-nés de chaque tribu. Ce ne serait plus le cas. Désormais, la fidèle tribu de Lévi assurait le service du temple. La division, ou séparation en deux, est un élément de la caractéristique prophétique du veau d'or. La rébellion d'Aaron préfigurait la rébellion de Jéroboam, le premier roi du royaume du nord d'Israël. Jéroboam double les veaux d'or, plaçant l'un à Bethel et l'autre à Dan. Aaron et Jéroboam représentent des histoires parallèles, à savoir l'histoire de la formation de l'image de la bête. L'histoire de l'image de la bête s'accomplit en deux périodes, séparées par la loi du dimanche aux États-Unis. L'image de la bête est un symbole de l'alliance de l'Église et de l'État, instaurée d'abord aux États-Unis, puis dans le monde. Il y a toujours une division associée au symbole de l'image de la bête. Avec Aaron, c'était la séparation des Lévites. Avec Jéroboam, c'était la séparation des 12 tribus en 2 tribus du sud et 10 tribus du nord. Le symbole de cette relation entre l'Église et l'État est appelé l'image de la bête par Jean dans le livre de l'Apocalypse. Les veaux d'or d'Aaron et de Jéroboam étaient des images d'une bête. Et la bête dont ils étaient l'image, c'est Babylone. Car le premier royaume de la prophétie biblique est représenté par une tête d'or dans le chapitre 2 de Daniel. L'image de la bête représente deux épreuves, car l'épreuve est d'abord appliquée à la bête de la terre, les États-Unis, puis au chapitre 13 de l'Apocalypse, les États-Unis contraignent le monde à ériger une image de la bête. La première épreuve concerne les États-Unis, puis le monde.
Lorsque l'Amérique, terre de liberté religieuse, s'unira à la papauté pour contraindre la conscience et obliger les hommes à honorer le faux sabbat, les peuples de tous les pays du globe seront amenés à suivre son exemple. Testimony, volume 6, 18. Les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Quoique ce soit elle qui ouvre la voie, la même crise surviendra néanmoins pour notre peuple dans toutes les parties du monde. Testimony, volume 6, 395.
La rébellion du veau d'or est double et marque deux des 9 premières épreuves qui conduisent à la 10e et dernière épreuve au premier Kadesh. Lorsque les rébellions d'Aaron et de Jéroboam sont mises ensemble, ligne sur ligne, on voit Aaron, le grand prêtre, représentant une église, et Jéroboam, le roi d'Israël, représentant l'État. Ensemble, ces deux lignes symbolisent une combinaison d'église et d'État. Les deux autels de Jéroboam ont été dressés à Bethel, signifiant église, et à Dan, signifiant jugement, représentant ensemble la combinaison de l'Église et de l'État. Avec ces éléments en place, nous commencerons à l'identifier les 10 épreuves. Les 10 épreuves s'inscrivent dans le contexte du repos sabbatique, Hébreux 3:4. Elles commencent par le triple miracle de la manne et l'enseignement qu'il donne sur le sabbat. Et elles s'achèvent à la 10e épreuve, au premier Kadès. Ce premier Kadès est le jour de la provocation dans les Écritures. Et Paul situe la rébellion finale dans le contexte de l'épreuve du sabbat. L'épreuve alpha était le sabbat, symbolisé par la manne, et la 10e, l'oméga, au premier Kadès, était aussi le repos sabbatique. Alpha et oméga représentent toujours la fin avec le commencement.
C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs, comme lors de la provocation, au jour de la tentation dans le désert. Lorsque vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils s'égarent toujours dans leur cœur, et ils n'ont point connu mes voies. Aussi jurai-je dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. Prenez garde, frères, qu'il ne se trouve en aucun de vous un cœur mauvais et incrédule, vous détournant du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, tant qu'il est dit « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Car nous sommes devenus participants du Christ si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Comme il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Car certains, après avoir entendu, se sont révoltés, cependant, pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Mais contre qui fut-il irrité pendant 40 ans? N'était-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui n'avaient pas cru? Ainsi, si nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité.
Craignant donc que,
la promesse nous étant laissée d'entrer dans son repos, quelqu'un de vous ne paraisse y manquer. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée, comme à eux, mais la parole prêchée ne leur a pas profité, parce qu'elle n'était pas unie à la foi chez ceux qui l'ont entendue. Car nous qui avons cru, entrons dans le repos, comme il a dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, bien que ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Car il a parlé ainsi quelque part du septième jour, et Dieu se reposa le septième jour de toutes ses œuvres. Et encore ici, ils n'entreront pas dans mon repos.
Il reste donc que certains doivent y entrer, et ceux à qui cela fut d'abord annoncé n'y sont pas entrés à cause de l'incrédulité.
De nouveau, il fixe un certain jour, en disant dans David, « Aujourd'hui, après si longtemps ». Comme il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ».
Car si Jésus leur avait donné le repos,
ils n'auraient pas, par la suite, parlé d'un autre jour.
Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos s'est lui aussi arrêté de ses œuvres, comme Dieu des siennes.
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Hébreux 3, 4-4, 11.
Au jour de la provocation, le message de Josué et de Caleb a été rejeté. Le passage se fonde sur une catégorie de personnes qui n'entreront pas, en raison de leur incrédulité envers un message qu'elles ont entendu. Le message est représenté par le repos.
Ceux qui ne sont pas disposés à rendre au Seigneur un service fidèle, fervent et aimant, ne trouveront pas de repos spirituel dans cette vie, ni dans la vie à venir. Il restait donc un repos pour le peuple de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Le repos dont il est ici question est le repos de la grâce, obtenu en suivant la prescription. Travailler avec diligence. Pacific Union Recorder, 7 novembre 1901.
Le repos est un message illustré par celui de Josué et de Caleb. Paul emploie les vérités associées au sabbat du septième jour comme effets humbles du message de repos qui a été rejeté par ceux qui étaient destinés à mourir dans le désert. L'expression « aujourd'hui, si vous entendez sa voix » est équivalente à l'accent mis par le livre de l'Apocalypse sur quiconque entend la voix de l'Esprit, c'est-à-dire le message de l'Esprit, qui est le message de la pluie de l'arrière-saison, le message du repos. À Kadès, cette voix retentit, et les rebelles choisirent un nouveau chef pour les ramener en Égypte. L'histoire de cette provocation est traitée dans le psaume 95 et par Paul dans l'Épître aux Hébreux. Cette histoire identifie l'échec de l'Israël ancien à sa 10e épreuve. L'épreuve alpha des 10 épreuves commença par le triple miracle de la manne, représentant les messages des 3 anges, la loi de Dieu, le repos du sabbat, le pain du ciel, l'obéissance et le jugement. Et la dernière des 10 épreuves fut l'épreuve du repos. Le repos de la grâce, comme le déclare Sir White, est le symbole de la pluie de l'arrière-saison. Kadès est un symbole de l'épreuve consistant à accepter ou à rejeter le message de la pluie de l'arrière-saison, qui est présenté ligne sur ligne. Ligne sur ligne, le repos est l'effusion du Saint-Esprit représenté comme la pluie de l'arrière-saison. Le repos est aussi le sabbat du septième jour, le sceau même, apposé sur les fidèles durant la période de la pluie de l'arrière-saison. Le repos est la grâce qui représente la puissance accordée aux 144 000 lorsque leurs péchés sont à jamais effacés. Cette grâce n'est pas seulement la puissance accordée représentant la sanctification, mais aussi la grâce qui procure la justification lorsque le sang du Christ est utilisé pour ôter les péchés de l'âme repentante. Le repos de la grâce est le message de la justice du Christ, une justice qui donne la grâce, puissance, de vivre sans péché et la grâce qui transforme un Laodicéen en Philadelphien. Une fois transformé par la grâce de la justification, l'ancien Laodicéen en tant que Philadelphien, par la puissance de la grâce, marche sur le sentier sanctifié qui mène à la glorification. Le repos est le message du troisième ange, présenté comme la justification par la foi en vérité. Cela étant, Kadesh pointait vers 120 temps. Le premier Kadesh identifie le message de repos, qui est le message de l'évangile éternel. L'évangile éternel est l'œuvre du Christ, consistant à introduire un processus d'épreuve en 3 étapes qui développe puis manifeste 2 catégories d'adorateurs. Le message de l'Évangile éternel, du repos au premier Kadesh, représente le message en 3 volets de l'Évangile éternel, régi par l'œuvre triple du Saint-Esprit, qui convainc de péché, de gaille, de justice et de jugement. Ces 3 étapes sont identiques aux 3 étapes d'épreuve de la manne. Les 10 épreuves commencent par un processus de mise à l'épreuve en 3 volets, mettant l'accent sur la loi de Dieu, le sabbat et la responsabilité de l'humanité de se nourrir du message de Dieu et de l'assimiler. La première des 10 épreuves était triple, tout comme la 10e. La première épreuve utilise la manne comme symbole du pain du ciel, exaltant le sabbat du 7e jour. La dernière épreuve emploie le repos comme symbole du processus final de mise à l'épreuve de la pluie tardive, qui culmine au moment de la loi du dimanche où ceux qui représentent le pain du ciel sont dressés comme un étendard du sabbat. Le début des 10 épreuves, comme leur fin, mettent l'accent sur le sabbat et sur le message de l'évangile associé au sabbat, qui est l'évangile éternel du 3e ange. Le premier Kadesh est l'oméga des 10 épreuves, l'alpha des 10 épreuves, doit donc posséder les mêmes caractéristiques. Kadesh représentait 1863, époque où le Seigneur désirait achever son œuvre et ramener son peuple chez lui. Mais l'entrée dans la terre promise a été retardée.
En lisant les Écritures suivantes, nous verrons comment Dieu considérait l'Israël ancien. Car le Seigneur s'est choisi Jacob et Israël pour son trésor particulier. Somme 135:4. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi pour être un peuple qui lui appartient en propre, au-dessus de toutes les nations qui sont sur la terre. Deutéronome 14:3. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le moins nombreux de tous les peuples. Deutéronome 7:6-7. Car à quoi connaîtra-t-on ici que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux? N'est-ce pas parce que tu marches avec nous? Ainsi nous serons mis à part, moi et ton peuple, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Exode 33:16. Combien de fois l'ancien Israël s'est rebellé et combien de fois il a été visité par des jugements et des milliers ont été tués parce qu'ils n'ont pas voulu tenir compte des commandements de Dieu qui les avait choisis. L'Israël de Dieu en ces derniers jours est en danger constant de se mêler au monde et de perdre tout signe d'être le peuple choisi de Dieu. Relisez Tite 2:13-15. Nous sommes si ramenés au dernier jour, lorsque Dieu purifie pour lui-même un peuple qui lui appartienne en propre. Le provoquerons-nous, comme l'a fait l'ancien Israël? Ferons-nous venir sur nous sa colère en nous détournant de lui et en nous mêlant au monde et en suivant les abominations des nations qui nous entourent? Témoignage, volume 1, 282-283.
Sir White demande, « Le provoquerons-nous comme le fit l'Israël ancien ? Nous le provoquons en nous mêlant au monde, symbolisé par l'Égypte, ce même lieu vers lequel les rebelles à Kadès cherchèrent un chef pour les y ramener. En 1863, le désir de retourner en Égypte et le choix d'un nouveau chef sont présentés par l'aspiration comme le désir de s'associer au monde. Le passage que nous examinons maintenant a été précédé par le commentaire de Sir White sur le fait que l'Israël ancien n'est pas entré dans le repos. Dans le contexte de leur rébellion continuelle, elle a exposé les versets montrant comment Dieu souhaitait entrer en relation avec son épouse, mais son épouse a refusé. Le passage suivant introduit ce que nous venons de lire. Dans le passage qu'elle rapporte, « Dieu exigeait de son peuple qu'il se confie en lui seul. Il ne souhaitait pas qu'il reçoive de l'aide de ceux qui ne le servaient pas. » En 1863, l'adventisme millérite laodicéen a conclu une alliance avec le gouvernement des États-Unis pour soutenir ses efforts visant à empêcher que ces jeunes hommes soient appelés sous les drapeaux dans la guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis.
Nous lisons ici les avertissements que Dieu adressa à l'ancien Israël. Ce n'était pas sa volonté qu'ils errent si longtemps dans le désert. Il les aurait conduits immédiatement dans la terre promise s'ils s'étaient soumis, avaient aimé se laisser conduire par lui. Mais parce qu'ils l'attristèrent si souvent dans le désert, il jura dans sa colère qu'il n'entrerait pas dans son repos, sauf d'eux qui l'avaient suivi entièrement. Dieu exigeait de son peuple qu'il se confie en lui seul. Il ne voulait pas qu'il reçoive de l'aide de ceux qui ne le servaient pas. Veuillez lire Esdras 4, contre Orin 4 au 5. Or, lorsque les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les déportés bâtissaient le temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils vinrent vers Zorobabel et vers les chefs des maisons paternelles et leur dirent « Laissez-nous bâtir avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours d'Ézaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel et Josué et le reste des chefs des maisons paternelles d'Israël leur dirent « Vous n'avez rien de commun avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous la bâtirons nous-mêmes ensemble pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, selon l'ordre que nous a donné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et les troublèrent pendant la construction, et ils soudoyèrent des conseillers contre eux pour faire échouer leur projet.
Esdras 8:22-23. Alors je proclamai là, au fleuve d'Ahava, un jeûne, afin que nous nous humilions devant notre Dieu, pour lui demander une voie droite pour nous, pour nos petits et pour tous nos biens. Car j'avais honte de demander au roi une troupe de soldats et des cavaliers pour nous aider contre l'ennemi en chemin, parce que nous avions dit au roi, « La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa puissance et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. » Nous jeûnâmes donc et implorâmes notre Dieu pour cela, et il nous exauça. Le prophète et ses pères ne considéraient pas le peuple du pays comme des adorateurs du vrai Dieu. Et bien que ceux-ci professent l'amitié et souhaitent les aider, ils n'osaient pas s'unir à eux en quoi que ce soit et entrer à son culte. Lorsqu'ils montèrent à Jérusalem pour bâtir le temple de Dieu et rétablir son culte, ils ne demandèrent pas au roi de les assister en chemin, mais par le jeûne et la prière, ils implorèrent le secours du Seigneur. Ils croyaient que Dieu défendrait et ferait prospérer ses serviteurs dans leurs efforts pour le servir. Le Créateur de toutes choses n'a pas besoin de l'aide de ses ennemis pour rétablir son culte. Il ne demande pas le sacrifice de l'iniquité et n'accepte pas les offrandes de ceux qui ont d'autres dieux devant le Seigneur. Nous entendons souvent cette remarque. Vous êtes trop exclusifs. En tant que peuple, nous ferions n'importe quel sacrifice pour sauver des âmes ou les conduire à la vérité. Mais nous n'osons pas nous unir à eux, aimer les choses qu'ils aiment et nous lier d'amitié avec le monde, car nous serions alors ennemis de Dieu. Témoignage, volume 1, 281-282.
Sir White declared dans son commentaire sur la Révélation, Tacitus, le Créateur de toutes choses n'a pas besoin de l'aide de ses ennemis pour établir son culte. Il ne demande pas le sacrifice de thy nisi, not or all, not accept les offrandes de ceux qui met d'authors du avant le Seigneur. On one television Septimo Septonia, le mouvement de l'Adventisme Millerite Laodicean est devenu une église en a formé une alliance avec de puissants qui imposerait le culte de demande monoma à la nation, puis au monde entier. Dans le prochain article, nous poursuivrons sur nos réflexions sur les lignes prophétiques qui mènent à 1863, couronnement de la période prophétique allant de 1844 à 1863.
Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire « Voyez, ceci est nouveau. » Cela existait déjà autrefois, bien avant nous. Je sais que tout ce que Dieu fait demeure à jamais. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Et Dieu le fait, afin que les hommes le craignent. Ce qui a été est maintenant, et ce qui doit être a déjà été, et Dieu recherche ce qui est passé. Ecclésiaste 1, 9, 10, 3, 14, 15.